C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Vante speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autres choses.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois des redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107 ou sur radiobartas.net. Nous sommes le mercredi 19 juillet, il est 8h30. Joli programme ce matin. Dans cette matinale, nous serons dans un instant avec Vincent Bayron, qui est chef de projet du label Grand Site Gorge du Tarn, Jonte et Causse. Pour la communauté de communes Gorge Causse Cévennes, on va parler avec lui de ce que c'est, des enjeux, des tenants, des aboutissants de ce label. Ce sera juste après l'édito. Et en deuxième partie d'émission, Léo était au 48e de rue. On écoutera la deuxième partie de son reportage. Il y aura de la musique comme d'hab. Aujourd'hui, Henri Tachant. Henri Tachant, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est un super chanteur des années 70-80, plus ou moins. Beaucoup moins connu que Jane Birkin. Henri Tachant est mort il y a quelques jours. On l'écoutera ce matin. Voilà, vous avez le programme. C'est parti, vous êtes bien sur Radio Bartas.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Nous nous faisons le relais de la structure La Ribambelle ici à Florac et sur Radio Bartas. Nous les avions reçus sur cette antenne il y a quelques semaines et nous relayons la parole des salariés postés sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Voici ce qu'ils nous disent. La Ribambelle, le centre médico-psychologique pour enfants et ados de Florac, va voir son fonctionnement détruit à partir d'octobre 2023, entraînant une diminution de l'accès aux soins de proximité accessibles à tous gratuitement. Également une diminution des temps de travail des professionnels malgré la réponse mensongère de la direction de l'hôpital François Tosquel à ce sujet, l'hôpital qui gère la structure La Ribambelle. Également une diminution du temps médical sur le secteur du sud Lozère Cévennes. Ce sont de nombreux enfants qui n'auront plus accès aux soins dont pourtant ils ont grandement besoin. L'équipe, les syndicats, les familles, les partenaires, je les cite, écoles, collèges, familles d'accueil, lieux de vie, ASE, PMI, sont extrêmement inquiets du devenir de tous ces enfants. L'équipe est accusée, je cite, d'instrumentaliser la population avec des discours mensongers et catastrophistes. La direction a produit un document mensonger pour démonter les alertes lancées par l'équipe, arguant une augmentation des équivalents temps plein des soignants et une amélioration de la coordination des soins sur le territoire. En panne d'arguments, il taxe l'équipe de travailler hors cadre légal établi par l'établissement. L'équipe se mobilise pour dénoncer ces propos diffamatoires et insultants. Ils appellent donc tous les soutiens à réagir et à se mobiliser massivement, ne laissant pas des enfants et leurs familles sans soins qu'ils sollicitent. Voilà, nous nous ferons évidemment écho sur Radio Bartas des formes que la lutte va prendre. Si aucune décision positive pour le bien-être de celles et ceux qui sont accueillis par la structure La Ribambelle n'est prise. L'antenne est évidemment ouverte aux employés ou à la direction de l'établissement pour un droit de réponse ou tout simplement le droit de s'exprimer librement et de défendre cet outil ô combien important à Florac. À suivre. Allez, on passe à autre chose. On a beaucoup parlé de Jane Birkin et pas du tout d'Henri Tachant qui est mort il y a quelques jours. La musique ce matin, Henri Tachant, c'est parti.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tourner. De marches funèbres et de tombeaux en tombes, on oubliera l'humanité. Mozart se lève, me crie par Jupiter, y'a que chez toi que je me sens moins poudré. Le vin pétille dans les yeux de Schubert, qui se fredonne l'inachevé. Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite symphonie. Et sur les notes, on oubliera les femmes qui n'en finissent pas de tourner. De valses en Vienne et d'éventails en drame, on oubliera même leur beauté. Beethoven sourit en pensant à Élise qui ne répondait pas au courrier. Et Rossini m'apprend que c'est Miramis, c'était la putain au quartier. Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer un petit Don Giovanni. Et sur les notes, on oubliera la gloire qui n'en finit pas de tourner. À la roulette des succès illusoires, la gloire micro-sionisée. Rossini gueule, mon Barbier de Séville, par Toscanini dirigé. Mais c'est une bombe, mais c'est une torpille, mais c'est une tube, c'est un succès. Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer un petit quintet en mi. Et sur les notes, on oubliera la mort qui n'en finit pas de tourner. De l'ouverture jusqu'au dernier point d'orgue, on oubliera l'éternité. Demain il y aura Mahler, Brahms et Schumann pour faire plus long que la table. Il y a trop longtemps que la noblesse mélomane se les était colonisés. Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour du dernier verre dans ma chambre, on va se jouer la petite musique de nuit.
Vous êtes bien sur Radio Arthas sur le 107 et nous sommes ce matin avec Vincent Bayron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet du label Grand Site Gorge du Tarn, Jonte et Causse pour la Comcom Gorge Causse Cévennes. Merci beaucoup d'être avec nous. Commençons simplement. C'est quoi ce label Grand Site et quels sont les intérêts de l'avoir ?
Alors en fait, le label Grand Site de France, c'est une démarche territoriale qui est portée par les communes ou les comités de communes. C'est vraiment porté localement et c'est en vue de ce label, c'est pour valoriser le travail qui a été mené depuis le début. Donc nous, l'histoire a commencé en 2004, donc ça fait bientôt presque 20 ans. Et donc c'est un label qui est attribué par l'État, par le ministère, aux collectivités locales sur la préservation des paysages, du patrimoine du territoire et l'accueil d'un tourisme durable, régénératif, et le maintien évidemment des habitants d'un cadre de vie agréable à l'année et de ne pas avoir une mise sous cloche ou uniquement une venue estivale. Enfin voilà, essayer d'étaler sur l'année et dans le temps et dans l'espace.
Alors là, si j'ai bien compris, ça concerne trois Comcom, ce label. Donc vous êtes avec les communautés de communes Millau Grand Causse et Aubrac Lot Causse Tarn. Comment vous avez fonctionné pour l'obtenir ? Comment vous avez bossé ensemble ?
Alors au tout début, c'était voilà, il y a eu différentes structures, un CIVOM, un syndicat mixte, voilà, c'était plutôt les communes qui ont porté. Mmh. Et depuis donc 2018-2019, ce syndicat a été fermé, on va dire. Et puis il y a eu une convention qui a été signée entre les trois communautés de communes pour finalement avoir un objectif commun, des moyens communs, et annuellement se rencontrer et fixer les actions, les objectifs de l'année suivante. Donc voilà, c'est plus facile peut-être maintenant qu'on n'a plus que trois interlocuteurs dans le sens les trois comités communes, alors qu'auparavant c'était l'ensemble, plusieurs communes, plus d'une dizaine, et puis il y avait d'autres missions, pas forcément liées au grand site, qui étaient aussi portées par le syndicat, donc il pouvait y avoir confusion ou voilà, un peu trop d'objectifs ou d'actions à mener, et la convention entre les trois communautés de communes a été un bien fondé.
Ouais, en fait c'est ça, c'est vraiment se remettre à l'essentiel plutôt que s'éparpiller un peu dans tous les sens. Est-ce que ça a été simple sur un aussi grand territoire d'homogénéiser un peu votre façon de travailler ?
Alors, c'est vrai que bon, l'équipe est très petite. Hein, il y a juste un chef de projet qui est donc au sein de la communauté de communes Gorges-Cévennes. Voilà, mais on travaille donc avec les deux autres communautés de communes. Donc, on laisse finalement la liberté à chaque collectivité de fonctionner comme elle le souhaite. Mais c'est juste que pour certaines actions ou certains enjeux qui sont communs à ces trois communautés de communes, parce que l'enjeu ne s'arrête pas à la limite administrative. Une route continue, traverse, le visiteur va marcher jusqu'à... Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très territorial. Donc, c'est plutôt ça qui est en jeu. Et puis, c'est partager des sujets communs et de travailler ensemble pour essayer d'avoir une démarche plus vertueuse et puis d'arriver à des choses intéressantes.
Donc, on a bien compris que ça concerne le tourisme. Comment ça se traduit concrètement sur le terrain ?
Alors, il y a toujours les offices de tourisme localement qui font leur job, sur l'accueil des touristes, sur l'accompagnement des professionnels, enfin voilà, tout ce qui est lié au tourisme, c'est les offices de tourisme. Après, nous, on travaille évidemment avec les offices de tourisme et c'est travailler ensemble sur comment essayer d'avoir un accueil diffus, est-ce qu'il y a une navette, elle peut être multipartenariale, enfin voilà, c'est vraiment réfléchir à ce tissu, à ce lien entre ces territoires qui sont proches. À titre d'exemple, les Gorges du Tarn, à un moment, la limite au niveau des Gorges du Tarn, c'est la rivière. Donc, on sent bien qu'il y a un intérêt que de travailler ensemble parce que le tourisme ne s'arrête pas à une limite administrative.
Et puis, c'est aussi, ça regroupe pas mal d'actions. Hein, donc, ce que j'ai repris sur votre site, il y en a 8 qui sont quand même là, ce qui fait quand même un sacré boulot déjà. Par exemple, ça peut aller donc de l'amélioration de l'offre et de la gestion des activités de pleine nature jusqu'à la gestion des stationnements des camping-cars.
Oui, alors c'est vrai que ces 8 actions là, que vous citez, qui est en effet sur notre site internet, sont les 8 actions qui ont été priorisées en 2016. Depuis 2020, on a travaillé sur la candidature au label Grand Site de France, parce qu'on n'est pas encore labellisé.
C'est ça, vous avez déposé le dossier en mars 2023, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Mi-mars, on a déposé auprès de la préfecture, donc en local. Et s'en est suivi finalement une instruction. Donc ces 8 actions en 2016 ont été priorisées. Voilà, ça, on a mené une étude sur l'accueil et la gestion des camping-cars, donc ça c'est une chose. On se projette maintenant à horizon 6 ans ou 8 ans la durée du label, et évidemment encore plus loin. Donc on a des nouvelles actions, on a tissé un nouveau programme d'action en mettant les enjeux émergents, en travaillant avec en faisant remonter les éléments avec des ateliers qu'on a menés en concertation sur différents lieux du site. Donc voilà.
Est-ce que c'est simple de travailler avec les professionnels du tourisme ? Est-ce qu'eux-mêmes ont vu et voient l'intérêt de ce label ?
Alors je pense qu'il y a une diversité, tout le monde n'est pas forcément au fait de ce label, des intérêts. On a quand même un territoire, on va dire d'une certaine manière, multilabellisé. Enfin, on a le parc naturel des Cévennes, on a le bien inscrit Causse et Cévennes, on a le PNR Grand Causse, parce qu'on est aussi à cheval avec le PNR Grand Causse. On a une multitude finalement de structures qui portent des actions dans un même intérêt, qui est bien la préservation, le patrimoine pour le territoire. Donc il peut y avoir confusion parfois auprès des professionnels, mais une fois qu'on explique les tenants aboutissants, que oui, la démarche est longue, mais finalement la labellisation, c'est la valorisation du travail qui a été mené, ça s'inscrit quand même dans une démarche qui est quand même vertueuse. Et c'est vrai qu'en France, on a que 21 grands sites labellisés. Donc c'est aussi faire partie de ce lot de ces territoires qui ont mis un certain nombre d'actions pour valoriser leur territoire et permettre un accueil régénératif, en tout cas de celui-ci.
Et justement d'échanger des savoir-faire avec les 20 autres grands sites. 2020 et 2021 ont vu le tourisme augmenter très fortement dans la région. Est-ce que vous avez fait des prédictions pour cette année, justement pour que respect de la nature et tourisme fasse bon ménage ?
Alors on n'a pas la boule de cristal, ça n'existe pas encore. C'est vrai que voilà, on s'appuie beaucoup des offices de tourisme ou enfin l'ensemble des partenaires pour mieux aussi se projeter. Enfin, on travaille ensemble et donc on n'a pas de boule de cristal en tout cas pour prédire ça. Et puis après on souhaite mettre en place un observatoire pour un peu mieux en effet au fil des ans recueillir en fait de l'information. Mais ça va se faire dans le temps et on verra.
Anne Legille, donc, qui est directrice du parc national des Cévennes, vous avez dit sur cette antenne que nous n'étions pas dans notre région dans ce qu'on appelle le tourisme de masse. Est-ce que vous êtes d'accord ? qu'on est à la limite, est-ce que ça va, sachant que le tourisme est quand même le poumon économique, enfin l'un des poumons économiques de la région.
Alors c'est évident, on ne souhaite pas et on n'est pas dans un tourisme de masse, et je pense que de plus en plus, même des territoires qui ne portent pas forcément de démarche de labellisation, ils tendent pas vers un tourisme de masse. Après, un quart qui arrive ou 10 quarts qui arrivent, finalement, c'est difficile aussi de l'anticiper. Donc je pense qu'il faut aussi mesurer les mots, et on n'est pas du tout dans un tourisme de masse.
Alors on a parlé des professionnels, parlons des touristes eux-mêmes. Est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce que vous pensez que les touristes sont assez sensibilisés à ces questions-là?
Alors je pense que oui, comme un peu dans tout panel, on aura tous les écarts. Je sais que le syndicat mixte du bassin versant en amont, donc qui est plus sur la gestion de la rivière, ils mettent en place des actions de sensibilisation dans les campings pour justement les touristes. Donc voilà, il y a des actions aussi qui sont mises en place pour sensibiliser les visiteurs. Les offices de tourisme également font de la sensibilisation. Donc même si quelqu'un qui arrive n'a pas forcément les idées claires, je pense à la fin de ses jours, ça va être plus clair pour lui.
Est-ce qu'il y a des recommandations à faire justement pour des touristes qui nous écouteraient là en ce moment, qui seraient volants de leur camping-car?
Alors la recommandation, je dirais que c'est de pas essayer forcément d'essayer de tout voir, mais de plutôt s'arrêter à un endroit, de profiter, de peut-être faire une petite boucle de randonnée, plus ou moins difficile ou facile, en fonction des capacités de chacun, mais vraiment de prendre le temps, de pas se dire on va faire toutes les gorges en une journée, de plutôt favoriser plusieurs arrêts, pour les camping-cars, plutôt dans les campings quand même, il faut le dire, de faire plusieurs arrêts et vraiment de prendre le temps, et puis aussi de voir l'arrière-saison, parce que même si le brouillard s'accroche sur les gorges, sur le rebord d'Écosse, mais c'est quelque chose aussi à vivre et à voir. C'est pas uniquement la pleine saison qui est intéressante, même si l'hiver on peut moins facilement se baigner à la rivière.
En tout cas, bon courage à ceux qui veulent le faire, mais pourquoi pas. Il y a aussi une des actions, c'est l'intégration paysagère des campings et de leurs équipements. Concrètement, ça veut dire quoi?
Alors c'est vrai, donc pour repartir aussi du fondement, un grand site, la mise en place de ce label Grand Site de France, il est nécessaire dans son cœur, il y a un site classé, un terme un peu barbare. Voilà, un site classé, c'est un patrimoine paysager ou patrimonial qui est protégé par une loi. Donc nous, ça concerne les gorges du Tarn et de la Jonte, donc vraiment le fond des gorges jusqu'au rebord d'Écosse, d'Ispagnac au niveau des gorges du Tarn à la confluence, mais le Rosier, et au niveau des gorges de la Jonte, de Mirueil à la confluence. Donc ça, c'est quelque chose, un territoire qui est protégé, et on ne peut pas y faire n'importe quoi. Alors c'est vrai que... alors je ne me rappelle plus la question.
Justement, comment on intègre l'intégration paysagère des campings.
Donc voilà, donc cette protection, elle est assez stricte, et c'est vrai que au bord de la rivière, on a beaucoup de campings, un certain nombre, pas beaucoup, on va dire un certain nombre de campings, et on a un de nos rôles, de nos missions, c'est de les accompagner pour, on va dire, améliorer l'intégration, favoriser plutôt des matériaux plutôt sombres ou en bois, plutôt que des toiles blanches qui se verraient plus depuis la route ou depuis le chemin. Donc on est plutôt dans cet objectif-là, du fait qu'on est dans un site patrimonial qui est protégé d'un point de vue pittoresque, donc d'un point de vue paysager.
Ça va jusqu'aux panneaux, hein. On voit maintenant les panneaux, alors c'est quelle couleur? Violet, mauve, rose?
Oui, alors voilà, il y a eu toute une signalétique qui a été mise en place par les techniciens prédécessrices. Chaque prestataire avait son panneau, avec même plusieurs panneaux pour indiquer que c'était à 200 mètres, à 100 mètres, ou que c'était, il y a piscine, il n'y a pas piscine. Voilà, il y avait toute une anarchie, d'une certaine manière, de panneaux. Et donc, il y a eu toute une action qui a été mise en place, donc avec la définition, en effet, d'une charte signalétique grand site, avec ce jeu de couleurs, donc un mauve, d'une certaine manière, et un bleu d'eau, qui identifie le type de prestation. Donc, d'un côté, on a plus les campings, l'hébergement, la restauration, et puis après, d'un autre côté, plus les activités de pleine nature. Il y a tous ces panneaux qui ont été mis en place, et qui est quand même une action qui a été félicitée, que ce soit à l'échelle nationale ou départementale. Et on, c'est pas dire qu'on va lutter, mais on veille au grain chaque année si un prestataire qui n'est pas forcément au courant ou à oublier, attention, là vous êtes dans un site protégé, de toute manière la loi interdit le fait que vous mettiez de la publicité sur, voilà, sur votre site, donc mais utilisez la charte et c'est bon quoi.
Ça coûte de l'argent tout ça pour les professionnels, hein, les panneaux, je ne sais plus combien c'est, mais c'est quand même un petit billet. Est-ce que la Comcom peut aider les professionnels ou les orienter vers des aides qui potentiellement pourraient exister?
Alors là, pour le cas là, de la signalétique, on a eu plusieurs opérations de mise en place, et dans ces opérations, qui est donc des opérations à plusieurs... à plusieurs dizaines de milliers, il y a eu voilà un package, voilà, c'est un groupement, voilà, avec des aides. On avait donc les aides de, notamment du département, et puis les aides de l'État. Donc après, il restait un autofinancement classique de 20%. Donc voilà, il y avait eu quand même le fait de travailler en gros, en groupement, ça a permis de structurer et de voilà de d'arriver plus fort, en tout cas, auprès des prestataires.
Et de réduire les coûts aussi. Justement, si on parle de moyens, est-ce que vous, à la communauté de communes, vous estimez en avoir assez pour remplir cette mission qui est quand même assez conséquente ?
Alors, c'est vrai que les chefs de projet grand site, n'importe où, on pourrait citer... auparavant, j'étais au Cercle de Navacelles, donc pas très loin d'ici, où c'est un syndicat mixte, ils sont deux agents. Donc, c'est vrai que les moyens sont différents d'un territoire à l'autre. Dans d'autres secteurs, par exemple la chaîne des puits, dans le Puy-de-Dôme, c'est le département qui porte, donc il y a un peu plus de moyens. Donc, je pense qu'il faut s'adapter en fonction des moyens qui existent sur le territoire. On se projette pas, en tout cas, à augmenter le nombre de moyens. Du fait du partenariat, du fait qu'il y a d'autres structures, les parcs, l'entente UNESCO, on n'est pas seul à finalement porter ces missions de préservation et de gestion du territoire. Donc on fait en tout cas avec les moyens qu'on a et on fait au mieux. Et l'objectif, c'était bien en tout cas de déposer pour la candidature au label. On l'a fait, on poursuit l'instruction et puis je pense que ça va apporter ses fruits de toute manière.
Est-ce que vous avez l'idée de quand vous allez être labellisé officiellement ou
Alors, c'est vrai que c'est un processus très long, on pourrait dire, entre mars et le dépôt. On a fait une présentation en commission, on va dire préfectorale, en Lozère et en Aveyron, en avril, mai, juin. Et puis, on a eu la venue la semaine dernière du réseau des grands sites de France, donc le président et la directrice, qui sont venus sur deux jours pour voir voilà, la candidature, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait, comment on se projette. Donc voilà, c'est un ensemble d'éléments qui s'étirent, on va dire, plutôt dans le temps. Les prochaines étapes, c'est l'inspection, donc le ministère qui vient sur le territoire pour voilà, se rendre compte aussi. Après, on a la commission à Paris, donc c'est beaucoup de choses. Et comment ça se profile, c'est plutôt pour fin 2023 ou début 2024 qu'on aura la réponse officielle dans le journal officiel du ministère.
Wow, tout ça prend un peu moins d'un an, pour tout ce qu'il y a à faire, ça va quoi.
Oui, oui.
Alors, parfois, les auditeurs que je peux rencontrer, etc., disent qu'il y a trop d'organismes qui s'occupent de tout, il y a entre le parc, qu'est-ce qu'on répond à ça ?
Alors c'est vrai que c'est une bonne question et moi-même je pense que si je ne travaillerais pas dans ce domaine, je me dirais mais où est-ce qu'on est peut-être. Je pense qu'il faut pas hésiter en tout cas à poser des questions, faut pas hésiter à se rendre à la commune auprès du maire même, enfin voilà, de poser des questions parce que je pense que c'est déjà un premier relais et puis faut pas hésiter non plus voilà à contacter je pense que même un technicien qu'on rencontre à une animation ou au bord d'un chemin, c'est l'occasion aussi pour mieux comprendre le maillage, le processus et cette multitude d'une certaine manière de structures qui finalement accompagnent aussi le territoire.
Et puis continuer, vous le disiez au début, ce travail de pédagogie en fait, dont parfois on manque cruellement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir ? À part l'obtention du label, évidemment.
Alors, souhaiter au territoire, je pense que... c'est une bonne question, il faut que je réfléchisse. Alors, c'est vrai qu'au-delà de l'obtention du label, je pense qu'on pourrait aimer une meilleure peut-être prise de conscience, enfin, au-delà des questions du changement climatique, mais on voit vite que les enjeux liés au risque incendie, à l'ensemble d'usages qui peut voilà, produire des risques, enfin, la vulnérabilité du territoire est assez friable. Donc, je pense que au-delà de la jouissance de ce label et des retombées qu'il pourrait y avoir, c'est aussi voilà, de continuer à préserver ces paysages, d'avoir une démarche vertueuse, de continuer à accueillir ces touristes, ces habitants à l'année, et de souhaiter le meilleur en tout cas pour ce territoire.
Merci Vincent. Merci Vincent Bayron, vous êtes chef de projet du label Grand Site Gorge du Tarn, Jonte et Causse pour la Communauté de communes Gorges-Causse, Cévennes. Très bon été à vous.
Merci.
Et vous revenez quand vous voulez sur cette antenne, ouais. Dès que vous avez obtenu le label, par exemple.
Ça sera avec plaisir. Merci
à beaucoup. Très bientôt. Au revoir.
Je veux avoir le temps d'apprivoiser les mouches. Je veux l'éternité pour apprendre ta bouche. Je veux voir les saisons minute par minute, brindille par brindille, tout le bois de ma hutte. Je veux chaque seconde connaître une habitude, comme un chien familier, comme la solitude. Je veux me coucher là et n'être pas rentable. Je veux vivre la vie d'une pierre, d'une table. Sans suspense, sans destin, sans crainte, sans dénouement. Je veux avoir le temps de perdre tout mon temps. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas. Je veux que tu sois belle et que tu brûles ailleurs, comme une bête en feu, sans que j'aie ni douleur, ni jalousie, ni haine, ni fierté pour rien. Je ne veux plus, famille, votre orgueil sicilien. Je veux avoir le temps de simplifier nos corps. Cette fille qui passe, il me la faut encore. Cet étranger te plaît, mais c'est épidermique. Je veux avoir le temps de comprendre cette musique. Je veux avoir le temps de ne plus avoir mal. Je veux avoir le temps d'être enfin animal. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas. Je veux des barricades qui servent à quelque chose, que près des immortels, elles vivent les roses. Je veux que les enfants ne soient plus des victimes, qu'on raye des dictionnaires, bombarde, tue, assassine. Je veux que la raison n'ait plus droit de citer, qu'intelligents malins deviennent inusités. Je veux avoir le temps de faire 20 ans de tôle, 100 ans de poésie, 1000 ans sur ton épaule. Je veux avoir le temps de n'être ni vieux ni sage. Je veux avoir le temps d'être l'idiot du village. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas.
Henri Tachant, extraordinaire chanteur. Allez le découvrir si vous ne le connaissez pas. Il a vraiment énormément de choses et des choses beaucoup plus drôles aussi. Voilà, pas vieillir, pas mourir. Le rêve un peu de tout le monde. Retour au 48e de rue avec Léo. La deuxième partie de son reportage, c'est parti.
Et on est parti pour ma journée du dimanche au festival 48e de rue. Au vu du nombre d'échanges que j'ai eu avec différentes compagnies, il m'est difficile de m'attarder sur chaque spectacle que j'ai vu. Du coup, je remercie grandement El Tio Teo et son spectacle Surfing the Street et Bruno Mad pour L'amour est une courbe avec leur magnifique spectacle de clown seul sur scène. Je remercie aussi la compagnie La Première Fois pour leur magnifique travail sur des marionnettes plus vraies que nature et pour leur caravane merveilleuse. Et mais aussi la compagnie Luca Moros pour leur grandiose clôture du festival avec la tortue de Gauguin. Je ne pouvais pas rêver mieux. C'est un imprévu sur les horaires qui m'a conduit à 11h30 à l'îlot Bonou pour voir Le Monde point à la ligne de la compagnie Tentative. Ça dure 40 minutes et c'est une adaptation de la pièce éponyme de Philippe Dorin.
De l'autre côté de la route, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit? De l'autre côté de la route, qu'est-ce qu'il voit, ce petit pois? Il voit un petit garçon qui porte son baluchon. Il voit un petit garçon qui porte son baluchon. Il voit un petit garçon qui porte son baluchon.
Moi, c'est Aude Portalier et je fais partie de la compagnie Tentative.
Moi, c'est Suzy Enoch et voilà, on est basé à Grenoble.
Vous vous êtes rencontrés comment? Vous êtes que deux dans la compagnie?
Non, on est plusieurs. Il y a plusieurs corps de métier aussi. Techniciens, scénographes, auteurs également. Et nous, avec Suzy, on s'est rencontrés un peu par hasard, comme ça.
Vous êtes juste actrice, vous deux? Vous êtes aussi metteuse en scène? Vous faites d'autres choses?
Moi, je suis seulement comédienne, mais Suzy est aussi metteuse en scène.
Oui, même si ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de mise en scène et que je me concentre plus sur le jeu aujourd'hui. Mais peut-être que j'y reviendrai un de ces quatre.
C'est-à-dire, tu as quel âge? Qu'est-ce que tu as fait déjà? Qu'est-ce que tu as mis en scène?
J'ai 30 ans et j'ai mis en scène le premier spectacle de la compagnie qui s'appelle Le Dattier du Mékong, notamment. Et au Conservatoire Régional de Grenoble aussi, on avait comme travaux du coup de la mise en scène. Et j'ai pu mettre en scène du coup le spectacle Tentative à ce moment-là. Et un solo de clown qui s'appelait Zolbi, qui était un clown envahisseur.
Voilà. Le Monde Point à la Ligne, c'est un spectacle pour enfants, j'imagine, de ce que j'en ai vu. Et du coup, est-ce que c'est une exclusivité de la compagnie de faire des choses pour enfants?
Pas vraiment pour uniquement les enfants, c'est aussi pour les grands-enfants, pour ceux qui s'émerveillent. Au début, on présentait le spectacle en jeune public, et on nous a dit, mais non, c'est du tout public, parce que les personnes s'identifient aussi, et ça les touche aussi à un endroit. Voilà, il y a plusieurs lectures dans le texte, qui du coup est un texte de Philippe Dorin, qui est à l'École des loisirs, qui est du coup le premier texte qu'il a mis en scène dans sa compagnie. Voilà. Philippe Dorin.
C'est un spectacle qui vit depuis combien de temps?
On l'a créé en 2020, été 2020, mais après il y a eu une petite pause qui a fait qu'on n'a pas trop tourné avec. Et du coup, depuis l'été 2021, on fait des tournées l'été justement où on se déplace dans différents départements. Et puis pendant l'année, on est plutôt autour de Grenoble, entre Grenoble et Marseille.
Est-ce que l'une de vous deux peut présenter vite fait, rapidement le spectacle, savoir de quoi il parle?
Bien sûr. Alors, Le Monde Point à la Ligne, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu le sourire, Léo. Un jour, il rentre dans une maison dans laquelle il y a une grande armoire. Dans cette armoire, le monde est rangé. Les mers, les montagnes, tout est rangé là-dedans. Comme le petit Léo pleure, il prend un mouchoir dans l'armoire et il fait tout renverser. Et le monde s'étend. Cette maison, elle appartient à une petite dame. Et donc la petite dame montre à ce garçon, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Le petit garçon tient dans sa main le mouchoir, le dernier petit bout du monde. Et la petite dame l'invite à parcourir le monde pour savoir quoi faire de ce mouchoir.
Est-ce que vous, du coup, vous avez un peu adapté à votre sauce le texte? Est-ce que vous avez des choses bien à vous? Vous avez rentré dans les personnages? Est-ce que vous avez laissé une petite marge de manœuvre pour faire des petites choses en plus?
Le texte, on n'a pas vraiment touché. Il est quasiment mot pour mot. À part peut-être vraiment un ou deux mots qui nous plaisaient peut-être pas trop, mais c'est tout. Et si on n'a pas, on a enlevé l'épilogue du texte. On s'est arrêté avant parce qu'on aimait beaucoup cette fin qui reprenait le début.
Et on a apporté du coup dans la mise en scène toute cette dimension autour du papier et autour de l'origami. Voilà, dans nos costumes aussi, on a fait appel à une costumière, Colline Blanchard, qui a conçu les costumes sur cette base-là, un peu de feuilles de papier et les costumes des personnages qui rentrent dans l'histoire. La petite dame, le petit monsieur que Léo rencontre sur son chemin sont dans des tons gris. Donc, voilà, on essaie de rester aussi dans des tons naturels et plutôt blancs.
Ce n'est que mon avis personnel, mais la petite chanson qui est du début à la fin, où le petit pois il rencontre des choses, j'ai trouvé que c'était un élément qui pouvait être clairement adapté au public, suivant leur disposition, suivant ce qui se passe. Et je ne sais pas si vous y avez déjà pensé à réadapter ça, le changer totalement, et du coup avoir une chanson différente peut-être à chaque fois.
Oui, bien sûr, on y a pensé. Mais au tout début, on s'est dit que c'était quand même plus simple initialement de savoir ce qu'on allait dire plutôt que d'improviser. Mais effectivement, c'est une dimension qu'on aimerait bien ajouter.
Qu'on a pu faire en flyant dans la rue, par exemple, notamment à Avignon en 2021, on a eu la chance de faire 4 jours du festival avec le spectacle. Et donc, quand on flyait, on essayait justement d'inventer justement d'autres paroles sur cette chanson, avec du coup la contrainte que c'est en rime et que ce soit 12 syllabes. Là, du coup, c'est... Mais oui, c'est juste.
Il y a beaucoup de collaboration avec le public qui est cherché, rien que pour chanter la chanson, pour avoir des petites gimmicks. Ça se passe bien en général, ça ?
Eh bien, c'est vrai qu'on a, vraiment... Ça change beaucoup, suivant le public qu'on a. Donc, on en a qui peuvent être très demandeurs de ça et qui vont beaucoup interagir, même quand c'est pas forcément proposé, on va dire. Et du coup, ça donne une autre dimension. Et puis, il y en a, effectivement, qui sont assez réfractaires et qui sont beaucoup plus... uniquement spectateur, et où bah oui, du coup ça rend la chose plus calme en général, mais c'est vrai qu'il y a moins d'interactions. Ça peut être un peu frustrant aussi,
et en fonction aussi des âges avec lesquels on intervient, parce qu'on intervient en scolaire aussi. Quand on joue devant une maternelle, les enfants sont beaucoup plus calmes et avec les yeux très grands. Et quand on joue plutôt pour du coup des primaires, tout de suite ça va chercher l'interaction avec nous et tout ça, donc ça va être plus actif. Donc on joue en fonction du public aussi qui est présent. On a plus tendance peut-être à nous adoucir et à porter le texte de manière plus poétique quand les gens sont plus calmes et plus émerveillés, entre guillemets, enfin, dans une ouverture au texte. Et quand les gens sont plutôt actifs et qui veulent de l'action, et ben, du coup on va complètement rentrer avec eux sur cette énergie là.
Il a été pensé pour la rue, le spectacle, ou il se fait aussi bien en intérieur?
Nous, quand on l'a mis en scène, c'était plutôt avec une volonté de jouer dans la rue, justement. Donc ça peut être on peut jouer en intérieur aussi, mais il est vraiment plus pensé pour la rue, ou en tout cas des lieux non dédiés initialement au spectacle.
J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je peux vous demander, par contre, si on peut vous revoir quelque part en France cet été avec ce spectacle ou un autre ?
Oui, du coup, c'est le début de notre tournée estivale. Donc, après les 48e, on retourne en Isère. On joue le 12 juillet à Revel, en Isère. Et ensuite
On va en Corrèze, dans le département de la Corrèze, pour quelques dates. Le 16 juillet, on sera à Gourdon-Murat pour la fête du Moulin. 19 juillet, on sera au lac de Sèchemaille. Le 21 juillet, on sera sur la place de l'église à Corrèze. Voilà, il y a 3 dates en Corrèze et après.
Et ensuite, on redescend en Lozère. On rejouera en Lozère vers Saint-Enimi, à la ferme des Champs à Montbrun. Voilà, à 19h. Le 28 juillet. Et après ça, on enchaîne. Le 29 et le 30, on sera dans le Puy de Dôme.
Ça n'en finit jamais, c'est une tournée énorme.
Et surtout, pour la première fois, le spectacle Le Monde Point Ligne sera au Festival d'Aurillac. Donc on a hâte de ce moment aussi.
Bah, merci à vous, c'était un très bon moment. Est-ce que vous avez quelque chose de plus à rajouter? Je sais pas.
Bon festival! Bon 48e de rue.
Merci. C'est après ma pause repas que j'ai eu la surprise, en voulant aller voir le spectacle La Mort à Mar, de trouver un acteur de la compagnie, seul, pour un spectacle totalement différent. L'imprévu ne fait pas de mal, au contraire, il permet de découvrir des choses surprenantes. L'histoire du crâne ou la valse de Ève, totalement absurde par le professeur allemand Wolfgang Odeux.
Voici Ève, première créature de Dieu. Eh oui, c'était un prototype, que voulez-vous? Il n'y avait pas tout l'ensemble complet encore que l'on connaît aujourd'hui. Il y a l'évolution après, hein. Là, on est en 3,8 millions d'années avant maintenant, messieurs, dames.
Je m'appelle Guillaume. Je fais donc partie du collectif MOM. Aujourd'hui, là, je viens de présenter à 14h l'histoire du crâne ou la valse de Ève, présentée par le professeur Wolfgang Odeux. Cette histoire, c'est une récréation absurde et poétique, une manière de raconter le monde assez inédite. C'est léger, absurde, décalé. Voilà, c'est une vacance, une récréation légère.
Ce spectacle, du coup, il n'était pas prévu du tout dans le programme du festival. Comment ça se fait qu'il soit là? Et est-ce que, du coup, ça a quand même fonctionné, même s'il n'était pas prévu?
On est venu avec le spectacle Amor Amar au 48e de rue. Ils avaient proposé de nous programmer deux fois par jour à 14h et à 18h. Et comme il y a un comédien qui vient de reprendre le rôle, il préférait jouer qu'une fois. Il trouvait que c'était un peu compliqué de faire deux représentations par jour au niveau physique. Du coup, j'ai proposé à l'Orga la semaine dernière de remplacer notre trio Amor Amar par mon solo. Et donc oui, y a des gens qui venaient en pensant voir autre chose, et donc ils avaient la bonne ou la mauvaise surprise. Mais comme on rejoue notre spectacle à 18h tout à l'heure, ils peuvent quand même venir voir le spectacle plus familial qui est écrit plus pour la famille Amor Amar.
C'est un spectacle qui existe depuis quand? Qui l'a fait? Est-ce que c'est toi qui l'as fait de A à Z? Est-ce que tu as été aidé? D'où il sort ce spectacle?
Ce spectacle, il sort du fait qu'on a construit avec le collectif MOM, avec Léa et Féo, on a construit une caravane qu'on a désossée et réaménagée complètement, qui s'appelle le Laboratoire Originel, dans lequel elles ont mis des tableaux, des sculptures qui seraient des créations des origines du monde, une fable plastique de toute l'histoire de l'humanité, mélangée avec... la religion, c'est un musée du Glocokitsch. Donc on a fait une caravane et on faisait visiter les gens dans ce musée. Donc ils pouvaient faire, c'était un entresort qu'on sortait pour des concerts, des expos, des choses comme ça. Et les gens, avec une musique étrange, ils allaient visiter ça et ils s'amusaient bien là-dedans. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais moi, je vais faire le personnage, le créateur de cette caravane. Donc j'ai commencé à triper sur un Allemand qui fait de la science, et grâce à la langue allemande que je connais pas, mais je fais de l'accent par mes connaissances de mon allemand de collège, je me suis amusé et ça m'a fait aller ailleurs dans la langue, dans la grammaire. Du coup, ça m'a fait réinventer ma propre langue, et du coup il y a des jeux de mots qu'il y a que Wolfgang qui a pu inventer et absolument pas Guillaume. Et c'était une chouette découverte pour ça, quoi. Et du coup, j'ai tout écrit seul. J'ai bossé un petit moment avec Léa et Féo, énormément seul. Aussi, une fois avec Colline Trouvé de Marseille, qui était sur le clown, qui m'a fait plus travailler le clown. Et donc, avec Léa Mann et Féodora Nikolzeff, on avait travaillé le personnage de départ et donc une construction de spectacle.
C'est un spectacle qui a demandé, j'imagine, quand même pas mal de travail, que ce soit à l'écriture ou même à la création du personnage, rien que ça. Une idée du temps que ça t'a pris? Parce que j'imagine de toute façon que c'est un truc qui est toujours en travail et il est toujours en développement. Mais...
Je pense autour de 5 ans que le personnage existe, qu'une idée du spectacle a commencé, peut-être même 7. Le problème, c'est que je me suis souvent fait passer en dernier, du coup j'avais d'autres activités que je faisais passer avant, la vie de famille... les organisations de concerts, les hebdos de l'été, des choses comme ça. Et me vendant pas assez bien, je le répétais juste avant de venir le jouer. Donc il y a des moments où j'ai dû le travailler 7 jours dans l'année, d'autres moments où j'ai dû le travailler plutôt 60. Je suis même pas sûr que j'ai déjà fait ça une année, de le travailler 60 jours. Il y a un moment, je l'ai boosté plusieurs fois en travaillant plusieurs semaines dessus. Pour finir de l'écrire. Et là, à chaque fois que je fais des répètes avant de venir le jouer en public, si j'ai des nouveaux jeux de mots, des nouveaux petits trucs, je les note. Mais il n'y a plus grand-chose qui bouge. Après, je me permets toujours des impros, parce que j'adore ça et que ça me nourrit, de rebondir avec ce qui se passe avec le public, les petits mouvements, les petites erreurs du technicien, qui sont des vrais cadeaux pour moi. Voilà, tous les accidents sont des cadeaux.
Où est-ce qu'on peut te retrouver cet été?
Alors le collectif MOM, on est basé à Vébron. Pour ce qui est de Wolfgang, il jouera à Castelbouc deux fois, le 16 juillet au 5 Arches et le 29 juillet au restaurant Louclos. À Moramar, on jouera le 13 août à Florac, le 14 août à Vébron et le 15 août à Castelbouc, encore au restaurant Louclos. Et puis entre-temps, le collectif MOM organise les hebdos de l'été. Donc on reçoit 5 groupes dans l'été sur les Cévennes, Florac et Quézac. Donc en tout, il y aura une quinzaine de concerts. Et sur Storga, l'idée, c'est qu'on fait venir un groupe 3 jours d'affilée. le mardi en Vallée Française, le mercredi sur Florac, le jeudi autour de Pont-de-Montvert ou Quézac. Tous les programmes, ils sont sur collectifmom.org.
Merci. Mon seul spectacle en déambulation du festival, ça a été Monique sur les crêtes de la compagnie Belle Pagaille. Il m'a valu 24 heures de colocation avec une tique, mais je ne regrette rien.
Vous allez faire ?
Alors je suis Capucine Mando et je suis comédienne, metteuse en scène et autrice et dans la entre autres dans la compagnie Belle Pagaille, voilà, avec le spectacle d'aujourd'hui, Monique sur les crêtes.
Est-ce que tu peux me présenter la compagnie un peu, son histoire, depuis quand elle existe, combien vous êtes ?
Alors la compagnie existe depuis 2004. C'est une compagnie qui n'a pas vraiment de troupe ou de ligne artistique. C'est un peu se mettre une balle dans le pied de dire ça, mais en fait, ça fonctionne vraiment au projet et des projets avec des projets vraiment très très différents. Ça peut être du cirque dans la rue, ça peut être un spectacle musical sur les arbres, ça peut être un Roméo et Juliette en bilingue, ça peut être une installation sonore dans un salon de coiffure ou, comme là, un spectacle en randonnée. Donc, ça change vraiment selon les équipes et les projets de création.
Pour mettre un peu les bases, est-ce que tu peux présenter Monique sur les crêtes ?
Donc, Monique sur les crêtes, c'est l'histoire de Monique, une dame de 80 ans, qui a disparu. Et comme elle a disparu, eh bien, il y a sa fille, Caroline, il y a son neveu, Jérémy, il y a son aide à domicile, Mélissa, qui vont partir à sa recherche.
Le projet, il est né quand ? Et ça fait combien de temps qu'il tourne ? Combien de fois il a tourné ?
Alors, le projet, il est né... c'est une bonne question. Je dirais 2018-2019. Vraiment, on a commencé l'écriture. On était trois au départ à l'écriture. Léa Goud, Pierre Damien Traversot et moi, Capucine Mando. Et on a fait des classes vertes, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés pour marcher et pour écrire. Et donc, ça a mis du temps à maturer. Évidemment, le Covid est passé par là, comme pour tout le monde. Et ça a mis aussi, ça a décalé le temps de création qui a commencé, du coup, après ça. Et ensuite, voilà, il a été créé pour 2022. Donc, en fait, c'est un spectacle qui a un an. Donc il a tourné l'année dernière, on était dans le Lyon à Aurillac, donc on a eu beaucoup, beaucoup de chance d'être très soutenu. On a été soutenu par la région Occitanie et bien par Aurillac, le parapluie, tout ça, qui nous ont vraiment fait un beau soutien, puis aussi par d'autres gens comme le Club des Six, la Transverse. Voilà, c'était vraiment chouette comme ça de pouvoir créer avec ce soutien-là.
Spectacle en déambulation, ça demande un peu de préparation puisque c'est jamais au même endroit, il y a besoin de faire des repérages. Ça prend combien de temps des repérages pour ce spectacle ?
Ça dépend un peu des lieux et de l'équipe organisatrice. En général, on envoie une fiche technique suffisamment détaillée pour que l'équipe organisatrice puisse faire un premier repérage, nous envoyer des vidéos, des photos. Si on n'a pas possibilité de venir sur place, c'est possible comme ça. Du coup, on arrive la veille ou l'avant-veille. On voit le pré-repérage qu'on a vu en vidéo et en photo. On dit c'est bien, c'est pas bien, ou on va changer des choses. Et ensuite, effectivement, ça demande un petit peu une création de situ, c'est-à-dire vraiment de pouvoir réimaginer cette histoire dans un autre décor, une autre scène.
Dans le spectacle, il y a beaucoup de références des mouvements qu'il y a eu récemment. On peut citer les problèmes dans les EHPAD. C'est des sujets qui vous ont touché pour inspirer le spectacle ou c'est juste des éléments qui auraient pu être... D'où ça vient, ces éléments-là ?
Oui, effectivement, on a déployé des choses qui nous touchaient et dont on avait envie de parler. Quand on a commencé à créer le personnage de l'aide à domicile, forcément, on s'est intéressé à qu'est-ce que c'était leur vie et ça nous a vraiment intéressé de déployer ça et de vraiment d'être au plus près. de ce que ça peut être. Et puis forcément, ben, on se s'est retrouvé avec cette question que pouvait se poser Caroline de ben, qu'est-ce qu'on fait d'une personne âgée qui comme, voilà, dont on sent un déclin et qu'est-ce qui se passe. Et finalement, tout le monde arrive à cette question-là à un moment ou à l'autre de sa vie. Donc voilà, ça nous intéressait, c'est une question qui touche tout le monde.
Et il y a un parti pris dans un message à faire passer côté des personnes âgées, ou c'est libre à chacun de prendre son parti pris derrière, de vaut mieux voilà, remettre la personne âgée en maison de retraite ou la laisser gambader dans la nature?
Là, là, alors là, loin de nous de vouloir faire des leçons de morale et de vouloir expliquer aux gens comment ils doivent vivre leur vie ou gérer leur famille. Au contraire, on essaye de poser des questions assez ouvertes pour que, en fait, les gens repartent avec ces questions-là et qu'ils trouvent leur chemin là-dedans.
Tu disais tout à l'heure, quand on discutait un peu comme ça, que les rôles n'étaient pas fixes. Vous échangez les rôles dans le spectacle. Comment ça fonctionne ?
Eh bien, en fait, on est en binôme sur le rôle de Caroline. Il y a Cécilia Schneider, que tu as vu tout à l'heure, et moi. Sur le rôle de Mélissa, il y a Léa Good et Léa Marchand. Sur le rôle de Jérémy, il y a Pierre-Damien Traverseau. Et Pierre-Damien Traverseau. Voilà. Mais du coup, ça permet... Enfin, déjà, c'est une grande richesse de travailler avec d'autres personnes, de voir d'autres personnes prendre ce rôle et puis de le prendre à son tour. Enfin, ça fait bouger des choses. Et puis, ben, c'est aussi très pratique, à vrai dire, parce qu'on refuse moins de propositions, on en refuse quand même, mais on travaille chacun aussi avec d'autres compagnies, du coup, tout le monde n'est pas toujours disponible. Ben voilà, ça permet de redistribuer à chaque fois, selon les besoins.
Ma dernière interview de la soirée, c'était pour Hamlet en 30 minutes de la compagnie Le Bruit qui court. Une véritable démonstration de force pour ce qui est du spectacle vivant.
Nous sommes au château d'Elsener au Danemark. Deux gardes ont invité Horatio, l'ami respecté du prince Hamlet, pour lui révéler ce dont ils ont été témoins les nuits précédentes et qu'ils considèrent comme un mauvais présage pour le royaume. Un spectre avait apparu.
Alors moi c'est Luc Miglietta, la compagnie s'appelle la compagnie Bruit qui court et je l'ai créée il y a plus de 20 ans. Il y a 20 ans parce que 2023 c'est les 20 ans de la compagnie. Avec une comédienne qui s'appelle Estée Sabatier, qui autrefois a travaillé sur Hamlet, mais qui maintenant fait moins de tournées, mais qui continue à travailler avec nous. Et voilà, c'est une compagnie qui a développé plutôt l'impro, le travail sur l'impro, on va dire sur la liberté de jeu, et surtout sur l'interaction avec le public, et qui a l'habitude de casser le quatrième mur théâtral, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas quatrième mur, même en théâtre, on casse le quatrième mur, on est souvent en relation directe avec le public.
J'ai vu il n'y a pas longtemps Platonov en 11 heures. Du coup, voir Hamlet en 30 minutes, ça paraissait une évidence. D'où est venue l'idée? J'imagine que déjà, il faut avoir un grand amour de la pièce pour la refaire, la retravailler. Comment c'est né?
Tout simplement, on voulait s'attaquer à Shakespeare, à Hamlet, qui est la pièce que tout le monde jouait, puisque la pièce la plus jouée dans le monde. Mais bon, on était une petite compagnie, on n'avait pas beaucoup de moyens. J'ai dit, ouais, 36 personnages, des décors et tout. Et en fait, on a créé un cabaret un soir, qu'on a joué pendant plus de 2 mois. C'est un cabaret de petite forme. On recevait 80 personnes dans un théâtre et on faisait plusieurs. On divisait le public en 15, 30. Il y avait plein de petites formes toute la soirée. Et à la fin, on réunissait tous les spectateurs dans le théâtre pour voir Hamlet en 30 minutes. C'était l'idée. Mais on n'a jamais réussi à le faire en 30 minutes. Déjà, il n'y a aucun comédien dans la compagnie qui est capable de tenir le rôle d'Hamlet. Donc on va en mettre 3 qui vont prendre le rôle d'Hamlet. Et puis moi, comme je suis un électron libre, je me suis dit, bon, je vais être le narrateur et je vais faire ce que je veux. Pendant que vous allez faire du texte shakespearien. Oui, et puis ce qui est assez intéressant avec cette pièce, c'est qu'au départ, on n'a pas voulu la vulgariser, tu vois. On s'est amusé avec. Mais au bout d'un moment, on a commencé à la présenter, tout ça, et puis on s'est rendu compte que quand on jouait dans les espaces publics, en extérieur, dans les festivals de rue, bah, d'un coup, il y avait des enfants, il y avait tout le monde, puis à la fin du spectacle, il y avait des enfants qui jouaient à Laërte, Hamlet. Donc finalement, sans vraiment connaître ou même savoir ce qui se passe dans la pièce, ils avaient déjà les bases de l'histoire. Et donc en gros, les gens, ils repartent quand même avec une image de l'œuvre de Shakespeare qui est quand même assez pesante.
Si je reviens un peu sur la compagnie, vous êtes combien? Qui tient quel rôle? Est-ce que le metteur en scène change suivant le spectacle? Comment ça fonctionne?
Eh ben non, moi je suis donc... on est deux à l'origine de la compagnie. Et moi, en général, ça va, quoi.
Ouais,
moi, en général, il y a un troisième personnage qui vient d'arriver autour du micro. Et en général, c'est moi qui lance les idées. Et voilà, je lance les idées. Et puis, j'appelle une équipe. La compagnie, on est 12-15 à peu près. Donc, parce qu'il y a plusieurs spectacles. Les spectacles vont de maximum 5. On a eu des spectacles où on était 8. Oui, c'est plus difficile à tourner. Mais là, en ce moment, c'est 5. On a un spectacle à 4, un à 3. Et un où je suis tout seul.
Le rôle d'Hamlet, il y a déjà 3 personnes qui le font. Il est interchangeable ? Est-ce que c'est toujours les mêmes acteurs en Hamlet ?
Non, ça tourne. On a un musicien avec banjo, un musicien avec accordéon. Et puis après, on a 2-3 filles qui ont le rôle de Hamlet.
J'ai vu le narrateur arriver au début, je m'attendais à un narrateur à la Brecht, très, très cassant le quatrième mur, mais au final je me suis retrouvé avec un clown en face. Et d'où vient l'inspiration du coup, d'où vient l'inspiration du narrateur, elle est née de quoi?
Bah, en fait moi j'ai aucune formation, je viens de l'impro, donc j'ai beaucoup improvisé, et puis après je me suis intéressé au clown, mais après je me suis dit non, je fais pas du clown. Et finalement il fallait mettre un mot. Vous faites quoi? Ah, du clown. Oui mais j'ai pas de nez rouge. Ah, alors vous êtes pas un clown nez rouge, ok. Donc, et après, si tu fais autre chose, on te dit, mais vous faites du clown, vous faites pas autre chose. Donc, c'est très compliqué. Il faut vraiment s'identifier, notamment pour les programmateurs, notamment pour la presse, tout ça. Donc, j'ai mis le mot clown, mais après, on l'a transformé en clownesque, burlesque. Mais moi, ma grosse inspiration, c'est l'absurde, le décalage britannique, en gros. Les Monty Python, tout ça, moi, j'aime beaucoup.
Les rares qui ne connaîtraient pas Hamlet, c'est normal que ce soit aussi drôle.
Mais c'est ce qui est génial avec Shakespeare, c'est pour ça qu'aujourd'hui Shakespeare, on le met au cinéma, il inspire des séries, il a inspiré Walt Disney. C'est parce que c'est dans ses pièces, il y a du surnaturel, il annonce tout dès le départ. Il y a un spectre qui arrive, qui dit salut, je me suis fait tuer par mon frère, vas-y, maintenant débrouille-toi. Enfin voilà, ça, c'est hyper, c'est toujours d'actualité. Et puis il travaille sur le pouvoir et sur le côté horrible de l'être humain. Et ça, c'est super intéressant. Et ça sera toujours intéressant.
Bêtement, je n'ai pas demandé, mais elle est née quand cette pièce? Enfin, depuis quand elle tourne et elle tournera encore combien de temps?
2007. Donc, depuis 2007. Et puis, écoute, puisque eux sont interchangeables, tu vois, le musicien va peut-être mourir, il est vieux maintenant. Donc, ils sont interchangeables, donc ça va. Après, moi, il faut voir si je suis interchangeable un jour. Mais l'idée, quand même, c'est un jour peut-être de la confier à une autre compagnie, pourquoi pas, ou tu vois, une jeune compagnie qui a envie de monter le projet.
La mettre en bouquin, du coup, ou juste la...
Non, c'est pas notre ambition, non. Non.
Bah, on sait jamais.
Non, je sais pas. Ça intéresse. C'est compliqué gens, parce que vraiment, moi, je travaille pas sur l'écriture. Enfin, je fais de l'écriture, si tu veux, mais j'écris rien. Je suis, tu vois, j'ai pas de notes. Je pense que quelqu'un peut se la réapproprier, mais ça sera différent. Ouais.
Oui, du coup, c'est une compagnie. Dans la compagnie, vous faites exclusivement des reprises ou c'est très varié?
Pas du tout. On a fait Hamlet il y a à peu près 17 ans, et après, on a exploré plein de trucs. On a exploré beaucoup de choses. À un moment, on travaillait vraiment avec un théâtre magnifique à Montpellier qui s'appelait le Théâtre de la Vista. Et c'était un lieu où on pouvait travailler en co-réalisation. Et donc, on avait des fois 15, voire des fois un mois de représentation. Et là, on faisait des expérimentations. On a fait des spectacles à 14 sur le plateau, tout ça. Et les plus beaux spectacles qu'on a fait, finalement, c'est des spectacles qu'on n'a pas pu tourner parce qu'ils étaient trop énormes et trop de personnes sur le plateau. Mais non, c'est pas notre spécialité. Effectivement, là, on a fait un Othello parce que ça fait longtemps que je travaille sur Othello. Mais après, on a fait le King of the Kingdom qui n'a rien à voir. Et puis, Amphitryon, c'est une grosse connerie, quoi. C'est un truc qui... C'est l'histoire d'un comédien qui vient du théâtre et qui s'est fait virer du théâtre et qui doit découvrir ce qu'est le théâtre de la rue. Voilà, il faut de tout, hein. Il faut du beau théâtre, il faut du texte. Mais là, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est du texte, mais aussi, un texte et aussi de l'interaction qui fait que le public il a l'impression de vivre une histoire unique. En plus, chaque spectacle est différent parce que l'interaction est toujours différente. Donc les gens... Et là, on a joué 2 fois ici. Donc il y avait plein de gens qui étaient déjà venus voir le spectacle la veille. Alors pour nous, c'est une difficulté parce qu'on se dit « Ah merde, il y avait des enfants au premier rang qui étaient là hier ». Donc on se dit, voilà, ils vont nous spoiler. Et du coup, on essaie toujours de faire différent, de réagir à ce qui se passe autrement, quoi. Donc le spectacle est toujours... Il se passe toujours quelque chose de nouveau, pratiquement. Là, aujourd'hui, il y avait un juge de ligne sur la partie tennis qui n'avait pas hier. Il y a la fameuse tourterelle qui est passée. Il y a un enfant que j'ai pris dans les bras. Enfin, voilà, il y a plein de choses.
Bah, merci beaucoup, c'était superbe. Et à une prochaine dans
merci,
un festival.
Merci, c'est ce que je disais, c'est le spectacle vivant. Le spectacle vivant, normalement, tout peut arriver, quoi. Il est vivant. Et merci à la 48e de rue.
Le festival 48e de rue est donc clos pour cette année. Mon week-end d'amende a peut-être été épuisant, mais c'était merveilleux et c'est certain. Je serai à nouveau présent l'an prochain.
Et voilà, merci Léo, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. Profitez-en bien, restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À lundi, ciao.
La vie, ça tient dans une paume. Ça résonne comme un psaume, mais ce n'est qu'une java. La vie, à peine est-elle éclose, on dirait une rose, mais ce n'est qu'un dahlia. La vie, même si tu la bourres de rêves et d'amour qui n'en finissent pas, la vie. Même si pour l'enfance c'est plus beau que Byzance, c'est toujours Carpentras. La vie, ça n'a pas de ressources, c'est pas coté en bourse comme l'or étalon. La vie, ça se débine en douce à la vie comme je te pousse au détour d'un avion. La vie, si tu la perds, pas besoin de demander le chemin, la rue des Morillons. La vie, on croit que c'est pépère, bien planqué à l'arrière, c'est toujours sur le front. La vie, pas le temps de faire des projets, à peine même si j'ai le temps d'être rossignol. La vie, on te la donne, on te la reprend, comme un jouet d'enfant, une divine babiole. La vie, c'est un bout de répit qui couve au bain-marie, dans une drôle de casserole. Et la vie, c'est la supercherie d'un Jupiter aigri, d'un dieu à camisole. La vie, ça ne tient qu'à un fil, ça se joue à face ou pile, pour des profits et pertes. La vie, ça se sauve, ça s'épargne dans les caisses d'épargne des guerres qu'on déserte. La vie, moi je la revendique.